Nous avons trois intervenants dans cette session qui est organisée, co-organisée par quatre RT ou GT. Alors je rappelle, il y a d'une part le RT1 qui est en charge, disons, des professions, le RT6 qui s'occupe des politiques sociales, pour résumer, le RT7 qui s'occupe des questions de vieillissement, et le jeune GT48 qui s'occupe de l'articulation vie professionnelle, vie hors travail. Et nous avons trois intervenants dans cette session que je vais vous présenter tout de suite. Jean-Claude Barbier, qui est CNRS, DRCNRS, qui est émérite depuis peu et qui est à l'université Paris 1 Sorbonne, et qui va nous parler de la domination, de la signification de la domination, disons, sous divers angles, et toujours avec la perspective des politiques sociales. Son intervention sera la plus, disons, généraliste. Il va planter un peu le décor. Et ensuite, Jean-Philippe Viriot-Durandal va aborder une question qui reste dans le prolongement, mais qui va spécifier cette dimension du social sous l'angle du vieillissement. Et ça va conduire vers le questionnement de cette notion qu'on retrouve souvent, de l'empowerment, hein, le pouvoir comme empowerment. Et ensuite, on va aborder une dimension fondamentale de la domination, qui est la domination du genre, qui est absolument capitale, et qui va être abordée sous l'angle donc de l'articulation de la vie de travail et de la vie hors travail, avec la question du care et de sa division très inégale, qui va nous ramener finalement vers les politiques sociales. C'est Chantal qui va nous en parler, et ça va nous ramener vers les politiques sociales sous la perspective des politiques sociales de l'égalité, de la possibilité de favoriser l'égalité, avec un point d'interrogation, hein, sur les modalités et les solutions possibles. Donc, 20 minutes pour chaque intervenant, et ensuite, la parole sera donnée à la salle aux participants. Jean-Claude, prêt ?
Alors, il paraît qu'il faut parler très fort. J'espère que vous m'entendez. Je suis content d'avoir écouté Luc Poltanski hier, parce que mon exposé, qui est beaucoup plus modeste et centré sur les objets que sont les objets donc du réseau dont je suis le président, mon exposé sera à la fois complémentaire et en partie contradictoire. Vous vous rappelez qu'il a dit à un moment donné qu'il fallait, je ne sais pas si c'est son mot propre, mais rendre opératoire la notion de domination. Il a cité deux cas polaires, l'un qui était, je résume, du côté de la violence physique expresse, et de l'autre côté, il a dit que on pouvait avoir un usage multiforme qui manquait de signification. C'est exactement la même problématique que j'ai en tête maintenant, avec la spécificité des outils, des objets de recherche qui sont ceux de notre réseau. La question, c'est au fond, est-ce que le concept de domination convient, et à quelles conditions? Luc Poltanski a donné une réponse à cela. Moi, ma réponse sera différente, parce que je pense que, et je vais essayer de le montrer dans une première partie, je pense que le concept de domination, en raison de son caractère polymorphe, polysémique, j'emploie évidemment le terme de Passeron, aboutit chez nous, dans nos objets, à plus de confusion et peu de gains sémantiques, et qu'il vaut mieux lui préférer des concepts plus sténographiques. J'en citerai en deuxième partie des exemples, mais dans ma première partie, je partirai sans, parce que c'est un sujet immense, j'en suis pleinement conscient, donc j'ai 20 minutes, j'ai déjà plus 20 minutes d'ailleurs, je ne ferai que effleurer le sujet, surtout que je me suis dit qu'en première partie, il fallait passer par l'anglais et l'allemand pour montrer combien la notion de domination était polymorphe et combien, si on se réfère aussi au politiste Giovanni Sartori, qui a été l'un de ceux qui a beaucoup écrit sur la façon de concevoir les concepts, combien cette notion de domination était devenue, au fond, l'objet de ce que Sartori appelle le concept stretching, ou en italien la slargatura dei concetti, c'est-à-dire l'élargissement, la dilution des concepts. Voilà donc mon sujet, et j'aborde tout de suite mon premier point, qui est de revoir, comme le conseil passeront dans le raisonnement sociologique, de revoir l'histoire du concept. Alors c'est une question là aussi immense. Je ne fais que rappeler que dans le raisonnement sociologique, Passeron nous invite à considérer des séries opératoires qu'il faut interroger dans leur histoire par rapport au contexte dans lesquels ils ont été employés et par rapport aux théories dont ils, à l'intérieur desquelles ils se situent. Et il y a deux théories qui ont été citées hier par Boltanski, à juste titre, qui sont celles de Pierre Bourdieu et de Max Weber, et qui, je vais le montrer dans une première partie, sont, à mon avis, contradictoires. Alors, la première chose qu'il faut, dans cette première partie, qu'il faut souligner, mais je n'ai pas le temps, c'est qu'en fait, on ne peut pas considérer le concept de domination sans le considérer dans un champ lexical. Et ce champ lexical a bien été balisé par plusieurs auteurs. L'un de ces auteurs, c'est Hannah Arendt, dans son livre qui s'appelle « On Violence ». Donc, il y a au moins, il y en a plus que ça, mais il y a au moins pouvoir, violence. Il y a beaucoup d'écho, hein. Pouvoir, violence, autorité, force. C'est meilleur, là? Ah, d'accord. Donc, je dis pouvoir, violence, autorité. Il y a aussi puissance. Et je n'ai pas le temps de vous mettre en face les correspondants en allemand et en anglais. Mais vous allez voir, parce que ce serait trop long, mais vous allez voir sur un point précis qui est la traduction du terme de Max Weber qui est « Herrschaft ». En anglais, vous allez voir que ce problème est majeur. Disons encore une chose avant d'arriver à ce point plus précis, c'est que le mot français de domination est unilatéralement associé à des connotations négatives, ce qui n'est pas le cas entièrement dans le champ allemand pour le mot « Herrschaft », bien que certains, à commencer par Marx, ont utilisé le mot « Herrschaft » tout en proposant d'autres alternatives. Par exemple, Marx a considéré dans une partie de son œuvre la Herrschaft, qu'il utilise dans le cas de la Herrschaft de la bourgeoisie, mais pour le prolétariat, par exemple, il a suggéré, bien qu'il ne l'ait pas utilisé systématiquement, d'autres mots allemands, par exemple Leitung ou Oberaufsicht. Pour ce qui est de la traduction en anglais, là je me réfère à la traduction de Goethe et Mills, Wright Mills et Parsons, il y a un débat majeur. Vous savez sans doute que certains ont traduit, très peu ont traduit domination, certains ont traduit authority, et d'autres ont traduit rule. Alors, la traduction en anglais classique de économie et société, economy and society, a traduit domination and legitimacy. Deuxième chose, il y a un chapitre qui d'ailleurs j'ai entendu parler l'autre jour, qui va être traduit, mais dans Économie et Société, il y a un chapitre qui n'était pas traduit. Alors les spécialistes d'allemand le savent peut-être depuis longtemps, mais moi j'ai appris ça il y a quelques jours. Donc c'est le chapitre qui s'appelle Sociologie der Herrschaft. Et dans ce chapitre, Max Weber dit un certain nombre de choses qui me paraissent très importantes. La première de ces choses, c'est que sans exception, tous les domaines de l'action dans la société ou dans l'action sociale sont influencés par des formes de Herrschaft. Je parle de Herrschaft et non pas de domination. La deuxième chose que Max Weber a dit dans son ouvrage et que Luc Boltanski a reprise, c'est que si le concept de Herrschaft était utilisé de façon trop large, il n'aurait aucun intérêt scientifique. On est là dans la problématique de Sartori avec la question du concept stretching. On n'a plus de gain sémantique à employer un mot s'il est employé dans n'importe quel cas. Et Weber, dans ce chapitre de sociologie des Herrschaft, dit parmi les différentes acceptions qu'on peut avoir, il y en a deux. Il y a la Herrschaft en liaison avec les constellations d'intérêt. Et là, l'exemple type, c'est le monopole sur le marché, donc la domination du monopole sur le marché. Et puis, il y a le concept qu'il a beaucoup plus travaillé, qui est dans sa connexion avec l'autorité et l'obéissance. Autorité, obéissance. Donc, c'est la capacité de faire obéir, Befehlsgewalt, et c'est l'obligation de obéir. Et là, il prend le Hausvater, il prend le prince, il prend le dirigeant. Donc, on est déjà devant une question qui me paraît essentielle, qui est celle de spécifier le contexte et les endroits d'utilisation du domaine de domination. Je n'ai pas le temps de parler de tout un tas d'autres, bien sûr. Je n'ai pas le temps de parler de Simmel, qui ne parle pas de domination, qui parle de Über- et Unterordnung. Je n'ai pas le temps de parler du travail de Nisbet, qui lui parle de authority, à chaque fois que, de la même façon, Parsons. Je n'ai pas le temps de parler de Boudon et Bourricot, qui utilisent le terme autorité. Je me concentre maintenant sur la contradiction qui existe entre l'usage par Weber et l'usage par Bourdieu. Quand je regarde le texte, je me suis surtout servi de raison pratique. Il n'y a pas d'entrée, d'ailleurs je ne suis pas un spécialiste de Bourdieu, loin de là, mais dans les œuvres de Bourdieu que j'ai regardées de près, je n'ai jamais trouvé dans les index, la notion de domination. Ça m'a surpris d'ailleurs. En revanche, dans Raison pratique, il y a une entrée violence symbolique, laquelle d'ailleurs est directement référée à exploitation voire violence symbolique. Il y a une entrée légitimité. Il y a une entrée légitimité avec plusieurs citations. Et dans cette partie, Bourdieu discute expressément Weber. Et il dit expressément, peut-être que vous le savez déjà tous, et que c'est inutile de le rappeler, mais quand même, il dit expressément que sa théorie est contradictoire avec celle de Weber. Donc, il parle de l'ordre symbolique qui repose sur l'imposition à l'ensemble des agents de structure cognitive. Il parle de l'accord immédiat et tacite qui fonde la relation de soumission doxique, qui nous lie par tous les liens de l'inconscient, à l'ordre établi. Donc, dit-il, contrairement à ce que croit Max Weber, ce n'est pas un acte de conscience clair, comme le croit Max Weber, mais c'est un accord pré-réflexif. Ce qui fait problème, c'est que l'ordre établi ne fait pas problème. Autrement dit, ce que je souligne, c'est le point peut-être essentiel, c'est que petit a, il y a un problème de traduction. J'ai à peine évoqué la question de la traduction en anglais. Il n'y a pas d'équivalent de rule en français, à mon avis. Et deuxièmement, il y a des travaux, par exemple, comme celui de l'étude tout à fait intéressante de Melvin Richter, que je vous conseille. Et d'autre part, on a deux théories majeures, celle de Bourdieu et celle de Max Weber, qui sont contradictoires. A minima, ça nous obligerait, je crois, à dire, si on emploie le terme de domination dans la filiation Weber, ou si on l'emploie dans la filiation Bourdieu. Mais ça n'est pas le même concept, ça n'est pas la même théorie. Dans ma dernière partie, je n'ai que très peu de temps, je voudrais prendre quelques exemples pour dire qu'on peut trouver d'autres concepts pour nos affaires, si je puis dire, nos objets du social. Et je commencerai par un, qui est le concept de contrôle social. Par exemple, dans les politiques sociales, vous savez très bien que certaines prestations sociales sont attribuées en fonction de la conformité des conduites. Vous savez très bien qu'il y a des processus de socialisation par les normes et les contraintes. Et donc, la contrainte sociale, c'est la mise en œuvre de ressources pour tenter de faire se conformer dans les politiques sociales des bénéficiaires à une certaine conduite. Cette contrainte peut être plus ou moins punitive. Ce qui ne veut pas dire, nous avons discuté de ça ce matin dans notre réseau, qu'elle soit forcément violence. Et là, je n'ai pas le temps d'ouvrir cette question, mais il y a contrôle social, il y a des agents de ce contrôle social, et ce contrôle social peut très bien se dérouler dans un contexte où il existe des droits, où il n'existe pas de violence, en tout cas pas de la violence au sens de la violence symbolique de Bourdieu, même s'il peut y avoir de la violence morale. Donc, je propose de revenir, et c'est vrai que ce terme n'est pas trop utilisé ces temps-ci, mais il existe. En anglais, il n'y a aucun problème de traduction, en allemand non plus. Deuxième exemple, on a beaucoup dans notre réseau de travaux sur les aspects cognitifs et normatifs des politiques sociales. Ce que, dans la tradition des sciences politiques, on appelle des référentiels. La domination des référentiels, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui ne va pas pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, on fabrique des référents cognitifs et normatifs pour des politiques à travers la bataille des idées. Et cette bataille d'idées est une bataille relativement ouverte, surtout quand on pense au fait que ça se fait au plan international. Et le concept d'hégémonie, à un moment donné, un référentiel triomphe, le concept d'hégémonie est beaucoup plus, à mon avis, adapté. On peut parler aussi de suprématie idéologique à un moment donné. Encore faut-il considérer, par exemple, le référentiel, vous savez, certains d'entre vous connaissent peut-être le terme de « workfare » ou de politique d'activation des chômeurs, des choses de ce type-là, avec la référence américaine et aussi les références européennes. Il peut très bien y avoir, une minute, il peut très bien y avoir, je conclue, il peut très bien y avoir à la fois une victoire d'un référentiel parmi les auteurs et les dirigeants des politiques, et que ça n'ait aucune conséquence directe, en tout cas pas la conséquence d'une domination au sens de l'imposition d'une violence symbolique, sur les bénéficiaires, ceux qu'on appelle les bénéficiaires. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, je n'ai pas le temps, évidemment je ne vais pas aborder la question de la domination masculine, qui aussi est en lien avec les politiques sociales, Chantal va nous en parler. Donc, conclusion, une étude, même si j'en ai montré qu'une toute petite partie en trois langues, montre que la notion de domination française, en français, doit être resituée par rapport à un champ lexical beaucoup plus varié. Deuxièmement, l'étude de série pertinente d'utilisation du concept de Herrschaft ou de domination dans les deux œuvres que j'ai citées montre qu'elles sont incompatibles et qu'il faut donc choisir. Troisièmement, si l'on veut utiliser ce qui serait à ce moment-là considéré comme des formes spécifiques avec des concepts sténographiques de la domination, il vaut mieux se tourner vers des concepts comme les deux que j'ai signalés au passage, mais j'en aurais trois ou quatre autres si j'avais le temps. Je vous remercie.
Merci Jean-Claude. Alors gardez vos questions et la parole est tout de suite à Jean-Philippe Vériot-Durandal de l'Université de Franche-Comté et membre aussi du GPEX de Paris-Descartes.
Merci beaucoup. Je vais essayer de rentrer en résonance à tout point de vue avec ce qu'a dit Jean-Claude à l'instant, mais en prenant une oblique un petit peu différente à partir de la notion de Macht, de pouvoir, telle que l'aborde Weber dans Économie et Société, en tant que probabilité qu'un acteur, un individu ou un groupe, puisse imposer sa volonté dans une relation sociale. Ça nous permet à la fois d'envisager le phénomène de domination au niveau macro-social, mais aussi au niveau micro-social, et de rentrer dans une lecture interactionniste de ces relations où le dominé peut aussi disposer de ressources. Ce qui a permis, par exemple, à la sociologie du vieillissement de démontrer que les personnes âgées en perte d'autonomie, considérées ordinairement et dans le sens commun comme des personnes dominées, disposaient aussi de stratégies de pouvoir, de résistance et de refus. Cela permet aussi, cette approche weberienne, de regarder dans la sociologie les stratégies des groupes pour lutter au niveau collectif pour la reconnaissance et la prise en compte de leurs intérêts matériels et moraux face aux détenteurs de l'autorité et du pouvoir rationnel légal. Donc, dans ce déroulement, eh bien, on va porter un regard un peu plus précis sur la notion dérivée qu'est l'empowerment, au travers de la réflexion sur les processus de contestation des formes de domination par l'étude des relations précisément de ces relations de domination. En revenant sur ce que signifie to empower en anglais, notamment dans le langage juridique, c'est-à-dire donner procuration, donner du pouvoir à quelqu'un, dans certains cas d'ailleurs lui conférer les pleins pouvoirs. Ce qui nous renvoie, dans les travaux de sociologie du vieillissement, aux questions que pose la tutelle, la turatelle, voire le mandat de protection future par rapport justement aux questions de domination. Et cette notion d'empowerment qui a été créée aux États-Unis et qui est en apparence neutre, en fait repose sur une conception individualiste et démocratique de la subsidiarité tout à fait ancrée dans les traditions philosophiques et institutionnelles des pères fondateurs de la Constitution américaine. Nous rentrons ici de plein pied dans le débat qui nous occupe, puisque dominare représente l'exercice de souveraineté par le dominus, le maître des lieux et des âmes, et que dans la conception de l'empowerment, au commencement se trouve l'individu pleinement souverain, qui n'accepte sa suggestion que pour autant qu'il la délègue et la maîtrise. Et l'empowerment est précisément là, comme garant théorique et opérationnel, j'y reviendrai tout à l'heure, de cette souveraineté sur soi et du pouvoir d'agir dans un collectif. Et sur un collectif. Appliqué aux sciences sociales, l'empowerment est alors situé comme un processus par lequel, dans une relation sociale donnée, le pouvoir détenu par un individu ou une structure sur un tiers implique le maintien ou le développement de ses ressources matérielles, mais aussi symboliques, leur permettant d'éviter des relations asymétriques, c'est ce qui qualifie la domination, et qui placerait ces individus justement dans une relation de suggestion. Des processus décisionnels formels et institutionnels sont en jeu, notamment à travers ici les notions de démocratie participative et plus récemment démocratie sanitaire, qui ont fortement inspiré un certain nombre de trains de mesure en France et en Europe, notamment pour la France, la loi hôpital, patient, santé, territoire, et dans lequel le citoyen et l'usager des politiques sociales doivent prendre place en tant que co-acteurs d'une politique publique. On retrouve ici ce que Michel Charpentier désigne comme l'empowerment structurel ou l'empowerment bureaucratique, un empowerment qui se situe au niveau de la décision politique et aussi au niveau de son implémentation à travers toutes les arcanes administratives. Mais il existe aussi une deuxième dimension dans l'empowerment relative au processus informel et qui renvoie aux asymétries dans les dynamiques relationnelles ordinaires, qu'elles se situent au niveau familial ou au niveau de relations avec des professionnels, par exemple. Au final, l'empowerment est appréhendé en fait en tant qu'éthique démocratique de la relation sociale dans ses dimensions à la fois collectives, on en a parlé tout à l'heure, et également individuelles. Et ce qui nous intéresse dans les questions relatives au vieillissement, c'est que précisément, au départ, la notion qui a été très utilisée en fait, pour décrypter, pour analyser les relations interpersonnelles, cette notion d'empowerment, elle a été utilisée, d'après Densers, qui a écrit « Empowering Older People », elle a été utilisée dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis pour inciter les communautés de nouveaux arrivants américains, notamment latino-américains, à s'inscrire dans la vie démocratique par une participation active et directe. Et puis cette notion a été ensuite réactivée dans les années 60 avec le développement des nouveaux mouvements sociaux féministes, notamment noirs américains, gays et lesbiennes, mais aussi dans le développement social des quartiers en difficulté, par exemple, pour ne citer que cela. Et les organisations de retraités se sont également, inspirées de cette notion avec les écoles de travailleurs sociaux, d'ailleurs. Ils s'en sont saisis dans l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, Empowering Older People, qui rassemble à la fois des théoriciens comme Henri Pratt ou Densers, mais aussi des travailleurs sociaux et des leaders des mouvements de personnes âgées. Si bien que l'empowerment s'est progressivement transformé en une notion, d'une notion pour l'analyse en sciences sociales, à un concept-outil sur lequel se fonde une ingénierie et des méthodes à destination des individus ou des groupes réputés dominés. Donc l'individu ici n'est pas dominé uniquement par un système économique ou politique, il l'est aussi par une culture de la relation, professionnelle ou familiale, j'en ai parlé, et l'individu ou les groupes dominés sont plus ou moins conscients, on revient à ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, dans la distinction entre Weber et Bourdieu, plus ou moins conscients et plus ou moins volontaires pour cette domination. Tout cela nous renvoie à la question de la prise de conscience. Et précisément, les organisations américaines vont mettre sur la table cette question de la prise de conscience du dégel cognitif, en fait, des populations âgées, à travers notamment un article de Bridget Delonan, qui reprend une approche assez foucauldienne, d'ailleurs, sur les conduites de soi, et qui utilise la métaphore d'un ours qui est offert par une délégation officielle à un maire. Cet ours est au départ mis dans une cage assez étroite, mais cette cage est retirée lorsque les aménagements sont faits, et l'ours reste dans les limites de son périmètre initial, incapable d'accéder à sa liberté du fait de l'intériorisation des limites qui lui ont été fixées. D'où l'intérêt, et là-dessus je rejoins Jean-Claude, l'intérêt de l'étude des modèles sur lesquels se fondent les relations entre un public donné et son environnement, mais aussi entre cet environnement et puis ce public, en l'occurrence le ou les publics âgés, lorsqu'il s'agit d'octroyer des statuts ou de dispenser sa solidarité. D'où l'intérêt de cette double dimension, comme nous y invite Jean-Claude, hein, dans cette double dimension, de travailler sur ce qu'il appelle hein, la bataille des représentations et des référentiels, qui, selon lui, est au cœur des transformations des politiques et des protections sociales. Le substrat de cette relation, à mon sens, ne met pas seulement en jeu les principes d'action comme l'activation ou le refaire, mais aussi la figure des publics en jeu dans l'intervention publique. D'où l'intérêt pour les derniers travaux de Robert Hudson aux États-Unis, dans un article assez intéressant mais peu remarqué, qui s'appelle « Baby Boomers and the Shifting Political Construction of Old Age », qui montre combien précisément on oscille dans la justification des politiques de la vieillesse entre le stéréotype du vieux dominé et celui, au contraire, du vieux dominant, souvent identifié au baby-boomer. Hudson développe une approche néo-pluraliste, comme Chad Schneider, et se réfère aussi au modèle conceptuel de Schneider et Ingram, qui distingue dans la lutte pour la légitimation de l'action publique les différents niveaux de ressources des individus et des groupes pour faire valoir leur intérêt en tentant d'instrumentaliser les représentations des publics qu'ils protègent ou dont ils défendent la cause à travers des figures emblématiques. Alors le vieux dominé, il renvoie à la figure archétypale du pauvre, du fragile, de l'exclu. Un exclu ou un vieux doublement dépendant dans sa sécurité économique, dépendant du système de retraite par répartition en l'espèce, mais aussi dans sa sécurité et son intégrité physique et corporelle ou psychique, avec les dépendances au système de santé ou à la prise en charge de la perte d'autonomie. Il reste donc à la merci de la manière dont les sociétés honorent leurs contrats à l'égard de ceux qui ont contribué au système de protection sociale, et il est soumis aussi à la mémoire que ces mêmes sociétés garderont des engagements qu'elles avaient pris. Toute référence à une actualité proche est bien entendu fortuite. Mais ces représentations du vieux, définies par ses carences, qu'on va retrouver aussi dans d'autres formes de domination, notamment la domination sur les femmes, hein, la personne ou sa figure est définie par ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne peut pas être dans les conceptions et dans les stéréotypes. Donc le vieux est un inactif, un incapable, un dépourvu financièrement et finalement dépendant. Eh bien, cette représentation peut servir aux mouvements sociaux, pour la défense d'une forme de légitimation de l'action publique, mais elle est aussi à double tranchant parce que elle va implicitement induire des formes de relations au public âgé jusqu'à les enfermer dans des statuts qui a trop les appréhender sous le prisme défectologique, eh bien, cautionne implicitement des phénomènes d'aliénation ou de perte de pouvoir. On retrouve ici notamment les débats sur la notion de dépendance et d'autonomie qui marquent la sociologie du vieillissement, à la rencontre d'ailleurs avec d'autres sociologies comme la sociologie du handicap. C'est aussi ici qu'il faut mentionner l'intérêt d'une connaissance réelle des processus de perte et de renégociation du pouvoir des personnes âgées à travers les notions notamment de déprise, dans la mesure où l'écart entre le vécu subjectif d'un individu âgé et les formes d'intervention sociale dénotent très souvent d'une forme de domination ou à tout le moins de ce que les Américains appellent le « depowerment », c'est-à-dire un retrait du pouvoir sur soi au nom d'une prise en charge bienveillante sans souci d'une validation de la délégation de pouvoir par les récipiendaires eux-mêmes. À côté de cela, ou en face de cela, on a le vieux dominant, l'autre figure à l'autre extrémité, le vieux riche, égoïste, s'accaparant sans partage les positions de pouvoir économique, politique et social, et monopolisant la manne des politiques publiques au détriment des plus jeunes. Là apparaît le concept d'inéquité intergénérationnelle qui a fortement été poussé par les Nord-Américains, Preston, Auerbach ou Kotlikoff, ou les Anglo-Saxons. Une notion d'inéquité intergénérationnelle qui a été aussi développée d'une certaine manière par Chauvel lorsqu'il explique que le destin des générations n'a pas été corrigé par les politiques publiques. Et la peur d'une domination des aînés sur les arbitrages politiques, du fait de leur nombre, a conduit à son extrême certains auteurs à envisager d'établir des corrections dans le système démocratique pour éviter cette domination des plus anciens, en substituant une logique de classe d'âge à une logique de classe sociale. Des auteurs comme Meucli, par exemple, envisagent de doter les jeunes de 18 ans d'un vote de 2 et à réduire de 0,01 chaque année le quotient du vote. D'autres auteurs comme Stewart conçoivent la date de péremption du vote à 70 ans. Heureusement, les Français sont là et Yves Michaud propose une décennie supplémentaire pour la citoyenneté en déclarant sur une grande radio publique « Le vieillissement de la population, et c'est naturel, encourage des votes conservateurs, je le cite, des votes pour la sécurité, des votes pour les hôpitaux et pour la santé, comme si d'ailleurs les hôpitaux et la santé n'étaient uniquement dédiés qu'aux personnes âgées ou aux vieux, et de proposer, de se poser la question d'une fin de vie citoyenne et de suggérer, je cite toujours, « Je pense que tôt ou tard, il faudra envisager qu'il y ait un âge de la retraite du citoyen. Moi, je verrais bien des gens votant, par exemple, entre 16 et 80 ans, et puis à 80 ans, on s'arrête. » Ce que révèle cette position, qui est quand même plutôt marginale, mais récurrente quand même depuis les années 80 dans la réflexion sur la domination, c'est précisément des processus symptomatiques qu'elle exhume et qui dépassent très largement le champ politique. Les processus d'altération au sens d'une péremption des droits et des statuts qui définissent l'individu en société. Le processus d'altération instaure une mise à distance fondamentale de l'individu par rapport à ce qu'il fut, d'où la racine « alter », hein, l'autre en latin. Un processus qui, du coup, peut permettre d'exclure de manière sectorielle ou totale et d'organiser une mise à l'écart des centres de gravité décisionnelle sur différents compartiments politiques, économiques, sociaux, culturels, produisant ainsi ce qu'on appelle une périphérisation, c'est-à-dire que la place des personnes âgées est progressivement ou subitement mise à distance des circuits de pouvoir, des centres de décision d'action ou d'influence sur la société du fait de leur âge, et ce, quelles que soient par ailleurs leurs ressources, leurs capacités ou leur aptitude objective. Et la suppression du droit de vote préconisée par Stewart procède précisément de ce mécanisme dans le cadre du système démocratique. Ces systèmes induisent, dans certaines circonstances, des formes de minoration, c'est-à-dire des processus par lesquels l'individu, du fait de son âge, passe d'un statut juridique de majeur à celui de mineur qu'il a éprouvé antérieurement au début de son existence. Ce retour en arrière ordonne donc une forme de mise sous tutelle d'un corps électoral fixé entre la majorité et un âge déterminé de manière parfaitement arbitraire. Alors, bien entendu, ces processus n'excluent pas des situations où les personnes âgées conservent le pouvoir, où ils dominent, voire ils monopolisent le pouvoir, mais il est important de souligner que ces processus sont aussi à l'œuvre dans l'approche que l'on peut avoir de la domination. Alors, comment les individus et les groupes peuvent peser sur la définition des cadres et des processus jusqu'à influencer les référentiels ? Et là, je serai très bref, en deux minutes qu'il me reste, je dirais deux choses. Il en reste une. Alors, je dirais une chose et demie. Effectivement, pour reprendre ce que disait Jean-Claude, il n'y a pas de domination homogène lorsque l'on observe très concrètement la notion, le développement de la notion de vieillissement actif, par exemple. Ce qu'on a fait avec Thibaut Moulard pendant deux ans. Le concert international est bien polyphonique, mais d'une part, le niveau de ressources et d'intervention entre les acteurs de la société civile et les organisations internationales pour peser sur les cadres sont très inégaux. Le premier texte officiel des ONG, par exemple, intervient 9 ans après le premier rapport de l'OCDE sur le vieillissement actif et réduit ces acteurs de la société civile à des postures réactives plutôt que proactives. Et deuxièmement, sur le plan de l'interprétation du référentiel vieillissement actif, il y a effectivement pluralité d'interprétations. D'un côté, on a le pôle laborocentré de l'OCDE, de l'Union européenne, du BIT, et de l'autre côté, une approche du vieillissement actif moins centrée sur l'emploi, intégrant l'activité non marchande comme bénévolat associatif ou les solidarités familiales et intergénérationnelles. Et là aussi, les femmes jouent un rôle extrêmement important, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais il n'y a pas pour autant de ligne de fracture entre une interprétation laborocentriste du vieillissement et une version activocentriste qui demeure quand même très ancrée dans des approches structuro-fonctionnalistes et utilitaristes. Donc, pour se résumer, les acteurs de la société civile institutionnelle demeurent ou s'inscrivent dans une communauté épistémique et restent dans un conformisme du discours dominant sur l'injonction à un vieillissement en mouvement. Ils n'opèrent pas de rupture dans le cadre d'analyse, alors qu'ils auraient pu, comme le font certains comme en sociologie critique, comme Stephen Katz, Amanda Grenier, ou Biggs, Moulard ou même Billet, ils auraient pu marquer une prudence, voire affirmer une rupture à l'endroit de ces modèles, en rappelant le droit à l'inutilité des personnes âgées, le droit à l'inactivité, pour ne pas dire le droit à la paresse. Voilà, je pense avoir terminé à la minute près. Merci.
Alors, la parole est donnée à Chantal Drancourt, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire LISE.
Merci. Alors, je représente le. Ça va ? Je représente le tout récent groupe thématique art, qui signifie articulation vie professionnelle, vie familiale et recomposition des temps sociaux. J'interviens aujourd'hui dans cette semi-plénière parce que les collègues de l'équipe d'animation l'ont souhaité. Je les remercie de leur confiance. Je remercie aussi les responsables des autres réseaux qui ont pensé que l'orientation générale de nos travaux faisait sens avec celle de leur propre réseau dans cette semi-plénière commune, ayant pour thème donc domination et émancipation dans le social. Alors, en réfléchissant au contenu de mon intervention, j'ai pensé qu'il fallait trouver un objet qui permette de croiser les trois espaces thématiques qui dialoguent ici, à savoir celui du congrès, les dominations, celui de la demi-plénière, émancipation dans le social, et celui de notre réseau articulation vie professionnelle, vie familiale. Ah, moi, j'aimais bien. Vous entendiez pas ?
Non, c'est parce que c'est la télé.
Pour l'enregistrement.
C'est pour la télé.
Ah, merde.
Pour la postérité.
Donc, j'ai cherché quelque chose qui croisait les trois entrées et j'ai choisi de parler ce qu'on appelle communément la double journée de travail. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je vais... Cette formulation évoque, vous le savez, le fait que tout actif doit, en dehors de son temps de travail, assumer quotidiennement d'autres activités, celles qui composent ce qu'on appelle le care. Vous le savez aussi, il n'y a pas d'équivalent français à la notion de care, et pour ne pas nous perdre en conjecture, nous adopterons aujourd'hui le pragmatisme anglo-saxon qui pense le care d'abord comme un travail, et qui y inclut le travail domestique, le travail éducatif et le travail de soins. La double journée de travail évoque donc le fait que tout actif doit, en dehors de son temps de travail, assumer quotidiennement un travail de care. banale a priori, cette double journée pose problème, car comme on le sait, elle est essentiellement à charge des femmes dès lors que les individus vivent en famille. Travaillant sur cette question depuis longtemps, je me suis rendu compte que l'intérêt qu'elle suscite baisse néanmoins régulièrement dans nos milieux scientifiques. Pourtant, paradoxalement, la notion de care commence à mobiliser de nombreux chercheurs, mais les sociologues ne sont pas majoritaires et, quand ils s'y mettent, ils préfèrent quand même les questions d'égalité professionnelle et, dans ces perspectives, ils préfèrent construire les indicateurs de mesure de qualité, de pénibilité du travail de care pour les professionnels futurs du secteur. Au fond, la double journée n'intéresse toujours pas, comme si l'on croyait encore au rêve d'Engels, qui affirmait que, sous l'action du développement des forces productives, eh bien, la famille a vocation à se dissoudre dans la production de marchandises, le travail domestique à se dissoudre dans la production de marchandises et la force de travail des femmes à se dissoudre dans le prolétariat. Or, on sait aujourd'hui que la réalité est loin de cette chimère. Près d'un siècle et demi plus tard, ce travail lié au care reste immense et peu socialisé. Il représente encore, dans l'ombre des foyers, plus de 60 milliards d'heures en 2010 en France, selon l'INSEE, soit deux fois plus que le temps de travail dit productif, qui, la même année, s'élève à 38 milliards d'heures. 38 milliards d'heures cumulées. Près d'un siècle et demi plus tard, il reste essentiellement à charge des femmes, les enquêtes budgétaires en attestent, et plus d'un siècle et demi plus tard, il reste non seulement essentiellement à charge des femmes, mais qui, dans la plupart des cas, aujourd'hui, sont des femmes actives. Sans mode d'emploi, il n'y a jamais eu officiellement en France de marché spécifique aux femmes chargées de famille. Sans mode d'emploi, donc, les femmes s'arrangent dans l'intimité des négociations familiales et conjugales depuis toujours. Ces arrangements, on les connaît. Ils s'appelaient naguère discontinuité et, à l'épreuve de la fragilisation de la relation salariale, cette discontinuité tend à disparaître au profit de ce qu'on pourrait appeler l'intermittence des trajectoires d'emploi féminines. Aujourd'hui, les femmes circulent en effet constamment entre l'activité formelle et informelle, marchande et non marchande, car d'une certaine façon, leur parcours professionnel, troué naturellement par la fragilisation de la relation salariale, permet aux mères de rester engagées naturellement sur le marché du travail tout en assumant les charges familiales. Enfin, je dirais aussi qu'on connaît le prix exorbitant pour les femmes de ces arrangements. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les travailleurs pauvres sont essentiellement des femmes actives et qu'elles constituent la part majoritaire de ce qu'on nomme aussi communément les précaires. N'oublions pas non plus que derrière ce qu'on affiche comme l'irrésistible progression de l'activité féminine, 11 millions de femmes sont aujourd'hui actives, mais plus de 3 millions travaillent à temps partiel et près de 3,5 millions sont au chômage ou sans emploi. Pire, on constate statistiquement une stagnation absolue de l'activité professionnelle féminine depuis 40 ans, si l'on compare non pas les taux d'activité féminin, mais le temps de travail des femmes actives équivalent temps plein. Contre toute attente, en effet, rien n'a bougé depuis 1970. Donc, ceci pour prouver que la double journée de travail reste une question sociale à part entière et entièrement à penser. Reste à savoir en quels termes, et c'est cela que je voudrais évoquer rapidement maintenant. Alors, compte tenu de l'importance des enjeux, je me demandais si on ne pouvait pas aujourd'hui soumettre les approches théoriques à l'épreuve des faits et se demander comment avancer. Ne faut-il pas se demander comment briser les mécanismes de reproduction de l'ordre injuste et inégalitaire qui dénie aux femmes le droit d'être citoyennes à part entière ? J'en arrive bien sûr aux approches en termes de domination, puisque c'est ce type d'approche qui, osons le mot, ont dominé longtemps le champ des inégalités de genre, en général, celle des inégalités de partage des tâches en particulier, et la question se pose de savoir, grâce aux approches de la domination, qu'en est-il, comment a-t-on avancé et où en est-on de la double journée de travail ? Moi, je pense qu'effectivement, on atteint des points limites, des points d'horizon, car ces approches, en termes de domination, sont restées très centrées sur, par exemple, l'articulation des temps travaillés quotidiens, temps de travail professionnel, temps de travail familial, aux dépens d'approches plus en termes de cycle de vie, plus globales, plus sociétales. Elles sont restées aussi très imprégnées de postures en termes de contrôle idéologique, notamment par les hommes, et politique, dont la domination des femmes par les hommes, donc, est une clé de voûte et l'expression. Et ceci impliquant cela, elles sont restées très intéressées par les potentialités critiques de l'ordre social, potentialités dopées depuis quelques années, me semble-t-il, par l'importation du concept d'intersectionnalité qui permet maintenant de parler de domination avec un S au pluriel et d'élargir la réflexion sur le pouvoir et la reproduction du pouvoir. Mais qu'on parle de domination au singulier ou au pluriel, un fond de raisonnement, me semble-t-il, reste constant. Il s'agit de penser la domination comme un précédent, celui qui structure l'organisation sociale autour d'un dispositif hiérarchique, celui qui pose la supériorité des hommes sur les femmes et à partir duquel s'organise le devenir des individus et des collectifs. Ce raisonnement, à mon avis, pose question à deux niveaux, au niveau du diagnostic et au niveau de la question du changement social. Au niveau du diagnostic, pourquoi ? Parce qu'il me semble que dans la rhétorique de la domination, les relations sociales sont une sorte de sous-produit de superstructure. Or, depuis longtemps, des voix s'élèvent pour penser le contraire, l'inverse. Ainsi, Nancy Fraser pense que la domination est au contraire enracinée dans le logiciel social du capitalisme. Pour elle, le capitalisme est une forme de vie au sens large, qui inclut non seulement le domaine de la production, à savoir l'économie monétarisée officielle, mais aussi le domaine de la reproduction sociale, à savoir les formes d'activité informelles produisant la valeur non monétarisée dont l'économie officielle dépend totalement. Ainsi formalisée, on peut, me semble-t-il, lire différemment la mise en place de l'organisation des sociétés salariales de première modernité et la mise en dépendance des femmes dans la construction des systèmes d'organisation sociale capitaliste. Au XIXe siècle, ainsi, la question à résoudre était la réorganisation de la relation travail-famille traditionnelle, relation bousculée par la séparation géographique des espaces de production et de reproduction due à l'industrialisation de la production. Pour résoudre cette question, un nouveau modèle d'organisation a émergé, reposant sur trois piliers. Une partition entre sphère productive et reproductive et, ce qui n'est pas pareil, une affectation sexuée des engagements prioritaires, ceux où la vie des pères est prioritairement affectée à l'engagement professionnel, celle où la vie des mères est prioritairement, doit être prioritairement centrée sur la responsabilité familiale. Deuxième pilier, qu'on a longtemps oublié dans les études féministes, mais qui reviennent en force depuis une quinzaine d'années, l'analyse de grâce aux politistes d'ailleurs, une protection sociale. Le deuxième pilier, c'est une protection sociale qui, paradoxalement, organise une mise en dépendance des femmes dans la construction des systèmes d'organisation sociale. Ce qui prouve, comme le souligne Nancy Fraser ou Françoise L'Héritier, que la mise en dépendance ne signifie pas toujours domination, notamment quand elle se traduit par des mesures de protection des femmes et des enfants dans les régimes d'État-providence. Le troisième pilier de construction de la première société salariale, le troisième pilier étant, je dirais, la figure dominante du travailleur dans la société salariale. Cette figure est celle d'un travailleur atomisé, coupé de son environnement social et familial, capable de travailler à plein temps tout au long de la vie. Dans ce contexte, le rapport salarial standard ne peut être affecté qu'à un individu, homme ou femme, libre et totalement disponible de toute contrainte extérieure dès lors qu'il se présente et souhaite se maintenir sur le marché du travail. Eh bien, aujourd'hui, si les modes de vie se sont modernisés avec l'entrée des femmes sur le marché du travail et la démocratisation de l'institution familiale, il me semble que le logiciel social qui structure l'organisation sociétale n'a pas bougé depuis le XIXe siècle. Ces référentiels d'organisation restent aujourd'hui encore intacts et constitue certainement le noyau dur des impasses actuelles de la parité réelle et de la mixité réelle au travail et dans la vie, dans la mesure où, quelles que soient les lois et les droits acquis, ces trois fondements du logiciel social rendent impossible encore aujourd'hui, aux mères comme aux pères, de mobiliser leurs forces de travail dans les deux sphères productives et reproductives aux conditions requises par le modèle standard. Dans ce contexte, le droit au travail pour tous n'a donc aucun sens. Formel pour les hommes et les femmes, ce droit ne peut être effectif pour les mères tant que la régulation entre travail productif et reproductif repose sur une partition sexuée. Autrement dit, à la source du problème de la double journée, il y a moins de domination entre hommes et femmes, me semble-t-il, que de référentiel d'organisation d'une société qui s'empare de différences pour légitimer un pouvoir social et des subordinations sociales sexuées. Dans cette façon de penser, disons plus relationnelle et moins catégorielle, la domination n'est donc pas source de pouvoir social. Elle en est une des expressions, comme pourrait l'être la violence, les discours, la coercition. Dans cette façon de penser, ce sont des relations de subordination sociale socialement instituées qui privent les femmes de reconnaissance, la domination découlant de ces relations et non l'inverse. Voilà pour rapidement, tout aussi rapidement, le deuxième, je trouvais que l'approche en termes de domination me posait problème aussi autour de la question du changement social. Certes, la domination est une problématique structurante du champ des mobilisations sociales. Mais l'est-elle toujours autant du champ de l'analyse du social ? Parvient-elle aujourd'hui à bien rendre compte de la complexité des mécanismes du pouvoir social et, je dirais, de la complexité à pouvoir s'en débarrasser ? Car il s'agit de ça maintenant, c'est comment s'en débarrasser ? Il manque, semble-t-il, à l'approche de la domination, la dialectique qui permet de penser ensemble la question sociale et son dépassement. Manuel Castells cite Saint-Simon pour rappeler que la dynamique de la domination et celle de la résistance à la domination s'appuient l'une sur l'autre. Et prenant au sérieux cette idée, il affirme que chaque époque historique dispose d'outils, de stratégies offensives et défensives à la domination. Dans cet esprit, ne peut-on pas dire qu'aujourd'hui, et contrairement au siècle dernier très déficient en outils d'action démocratique, le jeu est beaucoup plus ouvert. On peut parler de aujourd'hui de co-construction, de démocratie participative. Et dans ce cadre, l'État devient, par le biais des politiques publiques, un véritable acteur et un véritable vecteur d'action et de changement social majeur. Ainsi, et mon collègue Jean-Philippe Virieu-Durandal ne me contredira pas car je le rejoins sur cette idée, avec la mise en place de dispositifs de plus en plus ciblés, les politiques publiques se permettent d'avoir, au nom de la société, un droit de regard et un droit d'intervention sur la détermination de la valeur, sur celle du temps et quasiment sur l'ensemble de l'organisation d'activités humaines. Cette configuration inaugure un moment historique sans précédent du point de vue démocratique, à savoir un processus de transformation de la société par le politique, un processus d'institutionnalisation des parcours biographiques et processus à la fois contraignant mais aussi formidablement habilitant dans la mesure où l'individu moderne est à même, par sa réflexivité, à participer à ce processus de co-construction. C'est donc là que l'on peut agir, me semble-t-il, là qu'il faut penser les stratégies offensives et défensives à la domination aujourd'hui, dans cette perspective que Nancy Fraser dénonce les dénis de reconnaissance et propose son approche statutaire de la reconnaissance. En insistant sur les inégalités qui découlent d'organisations, de règles, de normes ou de pratiques marchandes familiales ou communautaires, neutres en apparence, cette approche promet de mettre en évidence les causes structurelles profondes des problèmes et d'ouvrir les bonnes pistes pour les résoudre. Par la mise en place, et parallèlement, en miroir, par la mise en place de mesures nouvelles, de type nouveau, de droits de type nouveau, de lois, de dispositifs publics de type nouveau, d'incitation, ces mesures sont à même de déconstruire les relations institutionnalisées de subordination sociale. Donc, il me semble que l'approche statutaire, cette approche statutaire de reconnaissance dans laquelle je me retrouve assez bien, propose de fabriquer du social, voire d'inventer un nouvel ordre social. En permettant de recourir à la loi pour réduire les inégalités, cette approche a donc pour conséquence positive d'être fortement porteuse de changement social. Elle permet en effet de traduire les inégalités hommes-femmes en termes de déni de droit et d'aspiration à la reconnaissance, d'aboutir à une convergence entre législation et discrimination et de recourir à la loi et aux politiques sociales pour lutter contre les inégalités. Enfin, si l'approche en termes de domination permet de rendre compte des atteintes aux droits formels, elle peine à rendre compte des enchevêtrements de registres qui font obstacle à leur effectivité. Une approche plus relationnelle permet, en revanche, de mettre à jour qu'au-delà des droits, surgit la question de l'accès aux droits et des multiples obstacles qui entravent les libertés d'agir et conduisent à la reproduction des inégalités. Je dirais pour finir qu'il me semble que ce type d'approche porte ses fruits en termes de changement social et qu'elle tend à s'imposer. Ainsi, de nombreux acquis en matière d'égalité entre hommes et femmes ont été récemment le fruit de jurisprudence, ici de ce type de procédure antidiscrimination, notamment au niveau européen. En France aussi, le comité interministériel aux droits des femmes semble adopter cette perspective quand il présente en 2012 sa feuille de route pour l'égalité entre hommes et femmes et déclare qu'après les droits civiques reconnus à la libération, après les droits économiques et sociaux des années 70 et 80, il s'agit désormais de définir les droits porteurs d'égalité réelle qui constitueront une troisième génération des droits des femmes. La démarche du comité relègue donc l'égalité au chapitre des principes et des exigences morales au profit de la mise en acte de mesures et de supports légaux à même de déconstruire certains fondements sources d'inégalité. Et j'ai pour ma part apprécié, dans ce projet, de voir hisser au rang des urgences la prise en compte des contraintes de la vie quotidienne et la volonté de lever les obstacles à l'égalité professionnelle. Autrement dit, une volonté d'agir sur les règles, les normes ou les pratiques à l'origine des conditions de reproduction des inégalités entre hommes et femmes. Une minute. Pour conclure, je dirais donc qu'il s'agit aujourd'hui de retravailler pour mieux penser ce qui fait obstacle à l'effectivité des droits acquis, à ce qui pervertit en mesure discriminatoire des dispositifs, des droits neutres en apparence, des acquis sociaux neutres en apparence, des dispositifs aidants neutres en apparence, et d'une façon générale, il s'agit de penser comment remettre en cohérence des pratiques sociales et des univers de référence pour lutter contre les dénis de reconnaissance. Il me semble qu'une approche qui traque les contradictions entre principes et pratiques dans les relations est plus à même de rendre compte des voies à emprunter pour avancer. Cette approche pragmatique peut s'appeler relationnelle ou autrement, mais elle s'oppose à celle de la domination en ce sens qu'elle évite les déterminismes, qu'ils soient individuels, de type industriel, de type individuel ou de type structurel. L'objectif de ce renouvellement d'approche serait alors de trouver des voies de progression et des points d'appui vers un nouveau régime de conciliation des temps sociaux qui ne repose ni sur une partition hiérarchisée du mode de reconnaissance des activités socialement utiles, ni sur une affectation sexuée de leur exercice, ni sur la domination d'une référence androgenrée de l'organisation des sociétés. Et c'est dans cette perspective de pensée que nous avons structuré donc cet espace de réflexion comme le réseau art de l'AFS. Je vous remercie.